time will come up when the winds will stop and the breeze will cease.
Cold beneath my skin and they're trembling with rage.
Oxford town,
I'll make you wild.
Everybody's got the head bowed down. Sun don't shine.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ces projets de recherche sur la dictée, l'oralité et les dispositifs d'enregistrement de la voix, le laboratoire sur les récits du soi mobile, affilié au département de littérature et de langue du monde de l'Université de Montréal, présente Bob Dylan, De l'enchantement à la cruauté. Au dernier épisode, on se penchait sur des projets de traduction de chansons de Dylan, sur sa création d'une persona inaccessible qui joue à répétition avec la figure de la trahison. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de l'artiste interdisciplinaire Rémi Béliveau. Salut Rémi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Ton travail explore régulièrement la composition de l'identité acadienne à travers l'étude puis la manipulation de ses archives iconographiques. En septembre 2020, tu présentais à la Galerie de l'UQAM une expo intitulée « Hier semble si loin, chapitre 4, Jean Dullarge », où se dépliait une figure de musicien folk acadien oublié, le dit Jean Dullarge, un personnage que tu as inventé, qui aurait enregistré un seul 45 tours dans les années 60, dont le B-side était une traduction en chiac d'une chanson de Bob Dylan. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce projet-là, puis de la façon dont la figure de Dylan est venue se lier à cet imaginaire musical acadien?
Avec grand plaisir. Dylan est hanté dans la conception de Jean Dullarge un peu tardivement dans le processus. Jean Dullarge est basé en fait sur des faits biographiques d'un autre chansonnier acadien réel, Donald Lacroix. Puis Donald Lacroix a un livre d'autobiographie sur lequel je me suis basé pour un peu... Je voulais donner une vraisemblance à mon personnage. Je voulais qu'il réagisse à une temporalité puis des faits historiques. Ça fait que je me disais, ben, Donald Lacroix, c'est une personne qui pourrait un peu venir alimenter ce qu'il y a de vraisemblant chez Jean Dullarge. Et Jean Dullarge, c'est mon invention, mais le nom, ça vient de l'univers de Donald Lacroix. C'est un alter ego que lui-même s'était inventé pour signer les notes sur la pochette de son disque. Mais Donald Lacroix, c'est très gentil. Chez nous, c'est un peu comme le cliché « Viens voir l'Acadie », c'est sa chanson culte qui est un peu comme l'hymne populaire des Acadiens et des Acadiennes. Puis, c'est pas politique. Outre le fait de dire l'Acadie dans une chanson à une époque où c'était peut-être moins commun, on est au début vraiment des années 70 dans la revendication identitaire, politique, sociale, économique chez les Acadiens et les Acadiennes. Ça fait qu'on a manqué tout ce chapitre-là des années 60 d'une certaine façon. On ne l'a pas manqué. Il y a eu des manifestations à l'Université de Moncton, mais ça ne s'est pas manifesté dans la musique. Ça fait que c'est pour cette raison-là que j'ai inventé un personnage, un folk rocker, protest singer. Ça fait que naturellement, ça s'est décliné vers Bob Dylan, qui était peut-être la figure centrale de ce mythe-là dans les années 60. Puis c'était facile pour moi d'y accéder parce que moi-même, j'aime beaucoup Dylan puis sa musique, surtout dans les années 60. C'est anecdotique, mais je deviens un peu désintéressé dans les années 70, moving forward. Mais les années 60, très, très intéressé. Ça fait que pour donner une vraisemblance, je me suis basé sur un Acadien. Puis là, je lui ai donné un peu un personnage fétiche sur lequel il pouvait se construire puis aussi réagir parce que Jean Dullarge, j'entretenais vraiment une chronologie jour pour jour. Puis je le faisais réagir à des événements en temps réel avec les années 60. La sortie de Rainy Day Women No. 12 and 35, son spectacle ici à Montréal à la Place des Arts. Le 23 février 1966, si je n'abuse. Puis, ça lui donnait vraiment des choses sur lesquelles construire sa méthodologie d'écriture. Soudainement, Jean Dullarge a entrepris une façon d'écrire qui était beaucoup plus surréelle à la Bob Dylan, beaucoup plus beat. Puis, ultimement, je me suis donné des contraintes de création qui ont mené à un échec, entre guillemets, avec mon projet. C'est-à-dire qu'en réagissant à la musique de Bob Dylan, j'ai fait une cover de Tell Me Mama, qui est une chanson inédite qui aurait été jouée, sûrement. On n'a pas la preuve, mais c'était dans le spectacle de Dylan de son World Tour à l'époque. Il l'aurait joué à Montréal, puis Jean Dullarge l'aurait entendu et donc aurait pu reprendre la chanson. Mais sur le plan formel, j'ai pas pu avoir les droits pour l'éditer. J'ai fait affaire avec son publisher, puis il m'a dit tout simplement, on considère que c'est une réécriture et non une reprise, et donc inadmissible. Qu'a fait que moi, j'ai un peu rebondi de là-dessus pour dire, ben ça l'explique pourquoi Jean Dullard, j'ai oublié. Son disque n'est jamais paru. Puis c'est peut-être vraisemblable aussi dans la mesure où la machine acadienne à l'époque n'aurait pas eu l'expérience requise pour éditer un disque, pas indépendamment de ce qui se passait au Québec. Et donc, l'inexpérience aurait pu amener à cet échec-là. Ça fait que, voilà.
Tu as aussi écrit dans le numéro d'hiver 2021 de Canadian Heart un article sur une espèce de série de figures musicales acadiennes que tu nommais des classiques perdus. Puis la plupart de ces figures-là sont bien réelles. Mais tu glisses aussi un court passage sur Jean Dullarge, montre cette figure fictive en présentant finalement son 45 tours jamais distribué, juste pour la raison que tu disais à l'instant. Puis tu écris que s'il avait pu sortir son disque, le cours de la musique rock aurait sans doute été transformé. Peut-être que toi-même, tu ne te retrouverais pas là à écrire ce texte. Comment tu es venu à faire apparaître cette fiction-là dans ce texte spécifique qui semble pourtant à première vue une recherche historiographique assez factuelle? Puis qu'est-ce que ça implique pour toi de créer des figures musicales d'identification culturelle qui passent par la fiction?
Ben, déjà, dans cette quête de vraisemblance-là, j'ai voulu inscrire Jean Dullarge dans un paysage musical réel. Ça veut dire qu'il devait réagir à ce qui était peut-être plus mainstream, comme Bob Dylan, The Beatles, qu'est-ce qui était grand public. Mais moi, j'ai aussi découvert au fil des années qu'il y avait une histoire de rock en Acadie oubliée, qui tombait un peu dans les cracks de ce que moi j'appelle la queerness de l'acadienneté. C'est vraiment les deux pôles, l'anglophonie puis la francophonie, puis l'Acadie qui est un peu tiraillée les deux tout le temps, sur le plan autant linguistique que culturel. Les artistes acadiens et acadiennes de l'époque qui jouaient en français se faisaient un peu assimiler dans le canon québécois. Puis les Acadiens qui jouaient en anglais, c'était un peu comme des maritime rock acts. Ça fait que toute la dimension acadienne, même si ce n'est pas dans le contenu des textes, c'est important pour nous de les célébrer puis savoir qu'il y a une histoire là. Mais c'est oublié dans les archives pour ces raisons-là. Ça fait que j'ai fait la recherche. Ça fait des années que je fais ça. Je m'intéressais déjà à l'histoire du rock. Puis c'est en faisant cette recherche-là que j'ai vu qu'il y avait un peu un vide quant à la posture du protest singer folk rocker. Comme on cochait pas mal toutes les boîtes, à partir du rockabilly jusqu'à la musique instrumentale, le yéyé aussi, le rock psychédélique, comme tout ça c'était là, il manquait juste un peu comme le folk rocker protest singer. Ça fait que je l'ai inventé. Puis pour moi, c'est un peu comme un geste d'empowerment de dire que ça a eu lieu pour de vrai. Puis ça joue sur toutes sortes de nuances assez complexes. Quand je présente Jean Dullarge chez nous, tout le monde sait que c'est pas vrai parce qu'il chante « Viens voir l'Acadie » qui est notre hymne populaire. Au Québec, cependant, les gens tombent vraiment dans la fiction de Jean Dullarge comme une vérité, ne connaissant pas tellement la communauté acadienne puis peut-être le canon musical, qui met la lumière un peu sur les distances qui nous séparent, les écarts entre les acquis que nous avons versus les acquis du Québec, les relations complexes entre les deux communautés. Ça fait que j'aime jouer sur ce niveau-là de qu'est-ce que je peux faire passer comme la vérité. Puis moi, j'ai fait ma formation en estampe, ça fait que des documents imprimés, c'est vraiment comme mon bread and butter. Puis j'aime jouer avec la patine des documents, puis les falsifier, puis même de les glisser dans les archives telles quelles. Pour brouiller les pistes, je veux dire, on peut voir une forme de critique de l'histoire avec le grand H, d'une certaine façon, parce que chez nous, il n'y a pas vraiment l'infrastructure pour produire le grand H. On s'écrit nous-mêmes vraiment à coups de récits puis de petites histoires. Ça fait que, tu sais, ce qu'on veut essayer de voir ça comme quelque chose de qui trouble le monolithe de l'histoire occidentale. La petite histoire, ça compte, puis ça se porte dans le corps, ça se porte dans la mémoire. Puis ça peut basculer jusqu'à la fiction parce que la mémoire n'est pas parfaite. La mémoire, à la limite, c'est une machine à fiction. Ça fait que, voilà, moi, je donne autant de légitimité à la fiction que la réalité.
Dans ce contexte-là, est-ce que tu le faisais avec la complicité de Canadian Heart puis des gens de l'édition dans la rue?
Oui, oui. J'avais déjà écrit des textes pour Canadian Heart dans le passé, puis quand j'ai été approché par Brian dans le temps, je leur ai dit, êtes-vous game de comme jouer mon jeu? Puis ça, ça m'arrive souvent dans ma pratique de demander aux gens, es-tu game de jouer mon jeu? Puis les gens, pas mal souvent, tu sais là, 95% du temps vont dire oui.
Disponible en carte postale souvenir au prix modique de 17,55 $.
je trouve que ça se lie aussi à la chanson que tu as choisie de Bob Dylan, la question de l'archive, puis comment elle apparaît de façon matérielle, parce que Tell Me Mama, c'est une chanson qui a une place assez particulière dans l'univers de Dylan, notamment parce que, comme tu disais, c'était seulement présenté dans la tournée 65-66, une tournée qui revient constamment dans le podcast qu'on fait ici, parce que Bob Dylan divisait ses sets en deux. Oui. Il y avait la première partie acoustique, la deuxième partie plutôt rock avec l'instrument amplifié, puis Tell Me Mama était vraiment la première chanson généralement de ce deuxième set. Mm-hmm. Mais c'est aussi une chanson qui n'a jamais enregistré en studio,
non.
Alors qu'il existe juste dans des bootlegs. Mm-hmm. Puis ton personnage, Jean Dulargue, c'est un peu son rôle finalement dans une nouvelle que tu as écrite. Celui de arriver à voir son enregistreur, puis capter cette archive-là qui est très 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 fragile.
Mm-hmm. Je me suis inspiré de... C'est ce qui est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on va peut-être parler du Dylan juridique à un moment donné, mais Dylan, il est dans une période intéressante de sa carrière parce que par rapport aux droits d'auteur, on tape depuis quelques années des 50e anniversaires à coup de d'années. Tu sais, là, comme là, on serait au 50e anniversaire de 1973. Ben, le coffret du World Tour de 66. Il est sorti en 2016 ou 2017. Puis, c'est 36 CD du même spectacle. Tu sais, il joue over and over again, puis il y a des nuances. Puis, ce que je trouvais intéressant de là-dedans, c'est qu'à écouter Tell Me Mama d'un spectacle à l'autre, on comprend que, OK, Dylan est peut-être un peu strung out, mais les paroles changent constamment. Là. C'est pas fixe comme une chanson finale, puis on comprend aussi que le studio, c'est une machine à histoire. Ça vient fixer des documents dans le temps, alors que lui, sur scène, comme bodily representation de lui-même, c'était comme un script de performance plus qu'une chanson. Il y a un début, il y a une fin, il y a des accords, il y a une structure. Les mots sont quand même là, mais ça fluctue beaucoup. Puis c'est un argument que moi, je faisais, j'en ai parlé dans mon... Parce que c'est mon projet de maîtrise, j'en ai parlé dans mon mémoire qu'on pourrait faire l'argument que Dylan lui-même appartient pas à cette chanson-là parce qu'elle n'est pas terminée. Comment est-ce qu'on ferait pour dire qu'est-ce qui est l'œuvre? Puis à ce moment-là, est-ce que moi, en la réécrivant, je suis pas plus fidèle à sa méthode qu'un produit final?
Oui, puis il y a quelque chose de différent quand même. Dans les 40 dernières années autour de Dylan, avant ça, il y avait une pratique presque illicite ou très intime de partage de bootleg où il y avait des gens qui faisaient des enregistrements clandestins dans ces shows puis qui les partageaient, puis parfois qui étaient même distribués, qui étaient mis sur le marché par des gens qui les vendaient de façon un peu illicite en opposition aux maisons de disques de Dylan. Mais là, depuis, c'est ça, à peu près les années 80, je pense, Columbia sort à chaque 2 ans, des bootlegs qui tendent à rendre un peu plus ambigu la frontière entre tout le canon officiel de Dylan puis tout le canon qui était davantage un peu plus intime, celui des spectacles, qui était plus secret.
Oui, puis c'est intéressant parce que j'ai même l'impression, puis écoute, la littérature sur Dylan va faire les louanges de Dylan, mais j'ai comme compris que peut-être le concept même de bootleg émerge du partage de bobines de Dylan. Puis je me demande si c'était pas les basement tapes qui ont un peu comme concrétisé, consacré la coutume puis la méthode. Puis que je trouve ça intéressant que ce soit Dylan qui a une série qui s'appelle The Bootleg Series. C'est comme si il répondait à son propre mythe d'une certaine façon. Puis Dylan, c'est tout le temps un peu tongue-in-cheek, puis c'est le wink-wink, nudge-nudge, puis... Il a cette capacité-là, ça fait que ça ne me surprend pas voir ça venir de lui.
Puis j'aimerais ça qu'on parle peut-être d'une question qui, je sais, t'intéresse, c'est-à-dire la figure de Dylan à la lisière elle-même de la fiction puis du réel, ce qui s'apparente à la propre invention de Dulargue aussi. Puis si on devait trouver un point où Dylan commence à s'inventer, où l'individu réel se dissipe un peu, ce serait quoi? Est-ce que ce serait le changement de nom entre Robert Zimmerman et Bob Dylan?
Écoutez, pour avoir fait l'expérience moi-même, parce que Jean Dulargue, je parle un peu de drag temporel puis de archival drag. C'est pas mes concepts. Si j'avais vraiment mes sources sur le bout des doigts, je pourrais nommer les auteurs que je cite, mais se glisser dans la peau d'un autre, ça a un énorme pouvoir. Des drag queens vous le diront. Juste porter un autre nom, ça a vraiment quelque chose de... Ça a un effet quand même transformateur. Puis moi, j'ai l'impression que Bob Dylan commence quand Robert Zimmerman finit. Puis je pense que je trouve ça intéressant toute la mythologie de Dylan, puis la motorbike crash, puis son virement tranquille vers le christianisme. Comme tout ça, ça me fait vraiment penser à ce jeune homme-là. Puis écoute, Dylan, c'était quasiment un enfant, là, comme il était. C'est un jeune adulte, puis prolifique vraiment pour quelqu'un de son âge. J'ai l'impression que sa propre fiction l'a rattrapé, puis qu'il a comme perdu littéralement, puis métaphoriquement, le contrôle du volant. Puis que cette crash-là, ça l'a fait un peu comme snapper out of it, d'une certaine façon. Puis là, il y a d'autres versions de Dylan qui ont sorti là, par la suite. On pourrait en nommer plusieurs, là, d'autres sortes de Dylan personas, parce qu'il y a comme des sous-catégories de Dylan quand même. Là. Il y a le folk rocker, il y a le protest singer, il y a...
dans les années 70, où il commence à avoir une voix de crooner un peu.
Ouais, comme tu sais, Nashville Skyline, c'est juste comme, ouh, qu'est-ce qui chante là? Ça fait que t'as comme le country Dylan, puis là t'as comme le... J'ai oublié le nom de sa tournée qu'il faisait dans les années 70, là, mais... The Rolling Thunder Review, c'est ça. Avec le maquillage puis tout ça, c'est comme, tu sais, c'est toutes des different versions de Dylan que c'est des sous-alter-ego de son alter-ego.
Puis il y a quelque chose d'encore plus paradoxal quand il sort en 70 Self-Portrait, qui est un album joke, mm-hmm. qui présente comme un refus de se coller à son mythe puis à l'espèce de rôle un peu messianique qu'on associe à Dylan. Puis cet album qui est un autoportrait apparemment est composé presque complètement de covers et de reprises.
Oui, c'est profondément ironique. T'sais. Puis moi, je fais quand même confiance à Dylan dans sa démarche artistique. C'est pas un imbécile, à mon sens. Il fait ces choses-là avec beaucoup d'intention. Puis... plus tard, peut-être moins, mais j'ai l'impression que c'est comme le... Comment est-ce qu'on le nomme? En tout cas, il y a comme une façon de le décrire dans la façon qu'il répondait à des journalistes dans les années... Put-down. C'est le comme master du put-down. Puis il va toujours te comme mettre à ta place puis mettre en évidence comment absurde qu'est juste la vie puis comme la relation artiste-journaliste, artiste public, artiste personne sous le pseudonyme de artiste, t'sais, comme tout ça devient un peu absurde à la fin, puis c'est ça, ouais, self-portrait, ça a vraiment cette qualité-là.
Mais c'est comme si Dylan travaillait à gratter puis à faire effacer ce qu'il y avait en dessous de sa propre persona, parce qu'il n'y a aucune possibilité de revenir à une espèce de Dylan authentique, un Robert Zimmerman, surtout, c'est seulement très, très tôt, là, en 62, dans sa carrière, où il décide de changer son nom de façon légale. Mm-hmm. C'est comme si cette origine potentielle disparaît complètement.
Ouais, ouais. Puis c'est intéressant parce que moi, tu sais, comme quand j'ai fait affaire avec la machine Dylan, puis je parle avec son représentant là, qui gère ses licences, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, ben, si je pouvais parler à lui directement, peut-être que lui pourrait me dire, je trouve que ton projet est intéressant, puis je te donne la permission. Mais Bob Dylan, c'est pas une personne. C'est une machine capitaliste. Tu sais, sincèrement, c'est un artiste, mais son armature est très complexe, puis architecturale. C'est des bureaux à travers le monde, c'est un label, c'est des employés. Puis, il est où, lui, Dylan, dans tout ça? Tu sais, comme. Moi, je me pose sincèrement la question. Puis je peux comprendre que pour quelqu'un comme lui qui a beaucoup joué sur ce niveau-là, de s'être perdu puis d'avoir à toujours ajusté son propre barème de lui-même, tu sais, c'est comme, c'était bizarre. Tu sais, je me demande qu'est-ce que Dylan pense de Dylan. Tu sais.
Il faudrait peut-être, comme solution à tes problèmes de droit, faire des bootlegs de Dularge, les distribuer dans les ruelles.
Ben écoutez, j'ai fait presser le disque. Il y en a 100 copies du disque. Puis, j'ai pas l'autorisation pour les vendre. Je peux pas faire de l'argent sur sa propriété intellectuelle, mais je peux les donner ou les distribuer. Par exemple, à Moncton, il y a un record store qui s'appelle Spin It. Je connais vraiment bien le propriétaire. Je lui ai donné une petite caisse, puis j'ai dit, prends ces 45 tours-là, puis mets-les dans la bargain bin. Puis Pat me dit, ben, tu sais, quand ce que je les mets à vendre pour 25 cents, là, moi, je mets mes initiales dessus en Sharpie, puis c'est parce que je veux pas les revoir. Puis j'ai dit, ouais, vas-y, mets tes initiales dessus, puis mets-les dedans. Puis ceux et celles qui vont avoir le courage de fouiller vont trouver des petits trésors obscurs, puis c'est comme ça que ça se passe.
Il y a encore une façon de manipuler l'archive en les mettant dans le monde comme ça, contre le gré de Dylan.
Oui, absolument.
Et merci, Rémi, d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Yeah.